Chers auditeurs et auditrices de Radio Sepharad, j'ai le plaisir cette année encore de m'entretenir avec Liliane Limonchik, que vous connaissez bien dorénavant. Elle est, comme vous le savez, fondatrice et directrice d'À la page, cette revue culturelle de langue française qui fait du bien en Israël et qui en est à sa 6e édition. Liliane, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'inviter à votre émission.
Ah, c'est toujours un plaisir. Alors, comme je disais, À la page en est à sa 6e édition. Et justement, j'aimerais commencer par là. Que de chemin parcouru en 6 ans. On est passé par la Covid, on est passé par différentes crises peut-être dans l'État d'Israël. Et pourtant, l'aventure continue.
Ben oui, mais je suis très contente que vous mentionniez ce parcours, ça me plaît beaucoup. Parce que ça veut dire, si vous voulez parler d'un parcours, ça signifie qu'il y a une certaine ancienneté. Alors voilà, donc c'est vrai qu'on a commencé il y a 6 ans, en 2018, et avec c'était les 70 ans, les 70 ans d'Israël, et voilà, l'aventure a commencé là. Alors c'est vrai qu'il y a une évolution, peut-être pas tellement dans le contenu, parce que le contenu a toujours la même volonté, c'est-à-dire une ouverture et pouvoir écouter, écouter et entendre des voix très différentes. Mais peut-être l'aspect, la mise en page a un petit peu changé. L'aventure continue, comme vous dites, et puis maintenant on présente la 6e. Et la 7e est déjà d'une certaine manière mise en route.
Oui, parce que c'est un travail de longue haleine. Et puis, je sais que vous êtes à l'affût donc des meilleures plumes de langue française qui ont un lien avec Israël, qui habitent en Israël. Et avant de parler des plumes plus connues qui reviennent assez souvent dans les différentes éditions, j'aimerais m'arrêter sur un récit original qui commence justement cette revue d'un certain Shmuel T. Mayer que moi personnellement je ne connaissais pas. Et c'est un récit qui m'a beaucoup plu, beaucoup bouleversé, je dirais, de par sa profondeur, son amplitude, sur seulement 3 pages. Et c'est une histoire qui a trait au kibboutz, qui a trait à la religion et à la laïcité au sein d'une même famille, et qui peut-être synthétise l'époque actuelle en Israël.
Oui. Et écoutez, je crois que Shmuel Meir est vraiment quelqu'un qui excelle dans la nouvelle. Et donc, j'étais très contente de voir que en 2021, il a reçu le prix Goncourt de la nouvelle. Et justement pour une série de ces histoires qui sont réunies dans une trilogie. Qui s'appelle Et la guerre est finie, et qui est publié par les éditions Métropolis à Genève. Et donc, en effet, cette histoire dont. Mais Shmuel Meir a vécu tout un temps dans un kibboutz. Donc, il connaît vraiment bien comment ça se passe, d'extérieur et d'intérieur. Et là, dans l'histoire qu'il a offert. Et qui fait partie de cette trilogie, c'est justement la rencontre entre le monde ultra-orthodoxe et laïque. Et j'ai trouvé ça très touchant parce que c'est souvent il y a une relation qui est complexe et souvent douloureuse. Entre, par exemple, des parents qui sont ultra-orthodoxes et puis des enfants qui décident de vivre une vie laïque. Et voilà, et le dénominateur commun semble souvent difficile à trouver. Alors, en effet, comme vous dites, vous faites le rapport avec l'actualité. Et justement, je crois que en Israël, mais pas seulement en Israël, dans le monde entier, il y a une préoccupation de conserver le libre arbitre et la liberté individuelle et collective. Et donc, cette histoire qui raconte finalement le choix d'une personne ultra-orthodoxe à vivre une vie laïque, et peut-être oui, symbolique aussi de la période que nous vivons.
Symbolique peut-être d'un des aspects de la période que nous vivons, qui est de toute façon très complexe.
Tout à fait, et aussi de génération, la différence qu'il y a entre l'optique de la génération des parents et des enfants, et comment on peut trouver pour pouvoir trouver une rencontre entre les deux, comme je l'avais écrit dans l'éditorial, un dénominateur commun.
Et justement, en parlant de dénominateur commun, vous êtes passé maître ou maîtresse dans l'art de trouver toujours des dénominateurs communs entre les différents récits qui peuplent votre revue. Et vous allez nous en parler maintenant à travers les différentes créations hein, que l'on peut trouver. Évidemment, c'est de la littérature, il y a beaucoup d'écrits, mais il y a aussi beaucoup de belles photos, de belles illustrations, hein, comme dans chaque édition, et ça nous permet aussi d'aborder donc d'autres axes, d'autres thèmes. Et j'aimerais que vous nous en parliez en insistant sur le fait que cette fois-ci, il n'y a pas de thème sur la gastronomie, qui me plaisait tellement. Mais j'imagine qu'on
Ben,
retrouvera cette chose dans la
exactement.
prochaine édition.
Ah ben ça, vous êtes sûr que j'ai essayé et puis je sais pas. Il s'est passé là que voilà, que ça n'a pas cette année et c'est un bémol pour moi parce que la gastronomie pour moi en Israël c'est quelque chose de très important à mentionner d'une façon ou d'une autre, que ce soit l'art de la table ou l'art du vin et des donc c'est important et en effet. Vous pouvez déjà noter dans votre tablette que pour la prochaine revue, je vais me rattraper. Je vais me rattraper avec quelque chose de voilà qui va interpeller le lecteur.
Et peut-être que pour cultiver les papilles, il y a quand même ce récit sur le café.
Ah oui.
On peut commencer
Alors
par là alors.
oui, ben c'est. Je suis contente que vous le mentionniez. Alors c'est Michel Kishka. Qui cette année était très très occupé avec un roman graphique qui sort ou qui vient d'être sorti déjà en France aux éditions d'Argo. Et puis donc il m'a envoyé comme ça par bribes deux textes. L'un qui est quand même un hommage à Meir Shalev, Meir Shalev qui est un écrivain, un des écrivains importants en Israël. Qui a été foudroyé par une maladie très très qu'il a atteint rapidement et de façon très cruelle. Et alors d'autre part, il m'a envoyé quelque chose d'autre, cet article que vous mentionnez sur le café. Alors le café en Israël, l'histoire un peu, parce que vous parlez gastronomie, mais il y a quand même, comme vous dites, une note gastronomique, puisque le café est mentionné. Alors, Michel Kishka dit bien à propos, écrit bien à propos, qu'en Israël, tout au début, il y avait deux sortes de café. Il y avait le café Ness et le café Bots. Alors, le Ness, c'est le instantané, et le instant café, et puis le Bots, c'est le café turc ou le café grec. Alors, mais en hébreu, Ness, c'est miracle, donc et Bots, c'est la boue. Alors il a dit, c'est comme ce qui se passe en Israël, où on est dans le miracle, où on est
La gadoue
dans la
totale.
boue. Et, oui, alors j'ai trouvé paradoxalement cet article sur le café très rafraîchissant. Mais il y a aussi photographie avec. Un très bel article illustré par Myriam Tanguy sur un monde disparu, des photographies des communautés du Yémen. Et puis, il y a aussi un article très intéressant sur le cinéma par rapport à une opération très importante qui s'appelle Opération Torche, qui a eu lieu en novembre 42 en Algérie et au Maroc, et qui a sauvé beaucoup de vies juives, pas seulement juives, mais qui certainement les juifs qui étaient dans le viseur en premier lieu, et puisque ça s'est passé en 42, et au travers de quatre films, entre 42 et récemment, donc actuellement, quatre films, Yehuda Morali montre l'évolution d'une mentalité, ce qu'on montre pas, ce qui est politiquement correct à une certaine époque, et qui change avec le temps. Donc c'est aussi un article très intéressant. Il y a un article sur le musée, qui se trouve à Rishon-le-Tzion, oui, d'Agam. Et justement, c'est pas seulement, bon, c'est un article plein de couleurs et très joyeux, mais pas seulement. Je trouve que ce qui est important pour moi et pour mon équipe, c'est de pouvoir amener pas seulement Jérusalem et Tel Aviv ou Paris, mais de petites villes avec de petits bijoux et les pouvoir le donner, en prendre connaissance, que le lecteur puisse en prendre connaissance.
Oui, c'est un
Alors, il y a,
article
mais,
de Raphaël Yerushalmi.
oui, c'est de Raphaël Yerushalmi qui est connu pour, ou bien pour I-24, ou pour ses romans aussi, ses romans qui sont publiés chez Actes Sud. Mais bon, pour parler des grands articles, il y a aussi quelqu'un à Paris, Martine Konorski, qui a écrit un entretien, qui a eu un entretien avec Gérard Garouste, qui avait une exposition à Beaubourg. Donc voilà, on est en Israël, mais on est ici en France. On est aussi en Belgique avec un article sur la mémoire, un abbé belge qui, pendant la guerre, a sauvé beaucoup de vies juives, et donc un juste parmi les nations.
L'abbé
Donc pour moi,
Joseph Anglais, oui.
oui, c'est un portrait, et donc il est important de se souvenir de ces gens qui ont risqué leur vie et qui n'en étaient pas du tout obligés. C'était une initiative vraiment privée et de cœur, une initiative venant du cœur. Et dans les textes de fond, oui, il y a sur des écrivains israéliens, Alef Bet Yeshua, Amos Oz, Batya Gur, qui montrent au travers de cet article d'Emmanuel Rickson, qui participe avec moi très activement à la lecture et à la préparation des textes. Son texte, c'est montrer au travers de ses livres l'expression différente de ses auteurs sur les douleurs, la douleur des familles quand il y a une perte. Quand il y a une perte, parce que il faut bien dire, c'est pas normal que des parents enterrent des enfants, et ça se passe malheureusement en Israël. Cette douleur est exprimée différemment par différents auteurs, et Emmanuel en parle. Mais il y a aussi un très bel article sur Günther Anders, qui est un philosophe, et qui justement, comme vous parliez, puisqu'on parlait de revenir à la liberté d'expression, l'individualité, lui, il est vraiment, il part en croisade, entre guillemets, pour la liberté d'expression, la liberté individuelle. Donc, c'est aussi un article très intéressant. Voilà. Et puis, il y a quand même le souvenir d'auteurs qui ont marqué, qui marquent toujours la littérature en Israël, comme Uri Orlev, qui est décédé, et donc il y a un éloge.
Là, je vais.
Voilà, donc, et puis il y a toujours des lectures où il y a des notes de lecture sur ce qui a été lu dans les 2 dernières années, 3 dernières années, qui ont interpellé la personne qui désire écrire sur ce sujet. Et
Effectivement, et
donc,
puis il y a aussi un très bon article de d'une personne qui revient souvent au fil des éditions, c'est Luis Mariano Ackerman, sur la première synagogue métropolitaine d'Argentine, qui est aussi très intéressant.
exactement. Oui, il est toujours, comme lui-même est d'origine d'Argentine, alors il choisit toujours un sujet lié à ce pays, est toujours un sujet très intéressant parce qu'on connaît moins ce qui se passe dans ces communautés d'Amérique du Sud. Et donc, c'est vraiment passionnant de voir comment il y avait en même temps une vie communautaire, mais aussi une ouverture. C'était des communautés ouverte qui accueillait volontiers les nouveaux venus en Argentine.
Eh bien, très bien. On a fait le tour. Maintenant, il ne reste plus qu'à nos auditeurs de se le procurer. Et pour cela, donc, il y a le lien sur notre site, à votre propre site, au site d'À la page, pour retrouver toutes les informations, pour essayer de se le procurer, et puis pour se plonger dans la lecture.